Bonjour chers auditeurs et bienvenue, vous écoutez Graphite. Je me présente, je suis Camille et aujourd'hui je suis accompagnée de Lisa.
Bonjour.
Angelina.
Salut.
Et Antoine.
Bonjour.
Nous allons rester pendant une petite heure tous ensemble pour parler du crédit social chinois et de tout ce qui en découle. Alors, le crédit social chinois, c'est quoi ? Personnellement, avant d'avoir fait quelques recherches sur le sujet, je n'en avais strictement aucune idée. Et quand on a commencé à m'en parler, j'étais encore plus dans le flou. Ce serait, en gros, un système de notation des citoyens qui permettrait à la République populaire de Chine de sanctionner les gens en les surveillant constamment parce qu'ils auraient en plus des caméras équipées de la reconnaissance faciale pour identifier les personnes qui commettent des actes considérés comme non sociaux. Donc, ça irait du petit dépassement dans une file d'attente jusqu'à un crime plus grave. Et lorsque la note d'une personne baisse jusqu'à être qualifiée de mauvaise, cette personne se verrait retirer certains de ses droits, comme le droit de prendre l'avion par exemple, et elle pourrait même être affichée publiquement sur des écrans géants dans la rue, la désignant comme une personne non fréquentable. Ce qui existait déjà avant, il me semble, l'humiliation publique en Chine. On parle jamais assez du pouvoir qu'a la foule, de l'opinion publique, tout ça. Bref, et l'inverse, serait possible également, à savoir qu'une personne commettant de bonnes actions se verrait récompensée. Et je crois que ce système est déjà en place dans les grandes villes de Chine, mais je préfère ne pas trop en dévoiler, car durant cette émission, nous essaierons de dépêtrer un peu toutes ces informations les unes des autres pour mieux comprendre ce qu'est ce crédit social chinois qui semble tout droit sortir d'un film de science-fiction basé sur le total contrôle du comportement des gens. Concrètement, la série Black Mirror, pour ceux qui connaissent, je pense que tout ce que j'ai dit a pu vous y faire penser. Parce que c'est vrai que tout ce que je viens de vous énoncer est en réalité ce qui se dit du bouche à oreille dans les pays occidentaux. Et on sait pertinemment que la Chine est, de notre point de vue, un pays psychorigide, ce qui n'est pas forcément un compliment. C'est pourquoi nous allons voir d'un peu plus près comment le crédit social chinois est vraiment censé fonctionner et dans quel contexte. Est-il vraiment si machiavélique que ce qu'on en dit ? Porte-t-il réellement atteinte à la liberté des citoyens chinois ? Qu'en pensent les citoyens chinois ? Parce que oui, ici en France, on les juge, mais on ne leur demande même pas leur avis. Est-ce vraiment une aberration d'essayer de l'imaginer en France ? Tout un tas de questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de l'émission. Je vais maintenant passer la parole à Angelina, qui va se charger d'éclaircir toutes les parts d'ombre concernant la mise en place et le fonctionnement du crédit social chinois. Vous êtes sur Graphite, restez avec nous. Angelina, c'est à toi.
Merci Camille. Alors moi, je vais vous parler de pourquoi ça a été mis en place et vous expliquer qu'est-ce que c'est. Depuis 2014, la Chine fait passer les devoirs avant les droits des citoyens avec le système du crédit social. Le cash a disparu et tout est dans le smartphone. Les habitudes d'achat sont notées via un système de points qui récompense ou sanctionne les citoyens selon leur comportement. Alors, pourquoi est-ce que ça a été mis en place ? Au départ, il s'agissait d'un projet économique. Il y a 20 ans, la Chine préparait son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Pour rassurer les entreprises étrangères, le gouvernement avait instauré un système de crédit social appliqué aux entreprises, puis aux particuliers inspiré de techniques de scoring des banques occidentales. Ce système de crédit score consistait en une note partant de 300 et pouvant atteindre 850 en fonction des informations récoltées directement auprès du ministère de la Sécurité ou celui des télécommunications. Donc ce système y mêle deux anciennes traditions chinoises, la tradition confucéenne qui veut civiliser la société et rendre les citoyens vertueux et la tradition légiste où châtiment, récompense et contrôle tiennent une grande place. Sur un modèle bien connu aux États-Unis, la banque réunit une série de données sur le mode de vie ou encore la santé de la personne afin de décider si elle lui accorde un crédit et si oui, à quel taux d'intérêt. Donc validé en 2012 par la Commission pour le développement et la réforme, ce projet s'est ensuite déployé à partir de 2014 dans une quarantaine de municipalités pour valider l'accès à un certain nombre de services et les autorités se servent de nouvelles technologies de surveillance déployées peu à peu dans tout le pays. Il est testé depuis 2014 et il a été rendu obligatoire en 2020. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Aujourd'hui, c'est un crédit sur 1000 points. C'est nourri par la vidéosurveillance et il y a plus de 600 millions de caméras dans les rues et à peu près une pour deux habitants. C'est couplé à la reconnaissance faciale, l'analyse de messages sur les réseaux sociaux, les achats, la géolocalisation et les renseignements médicaux. Il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle, donc capable de reconnaître la démarche et il y a de la reconnaissance faciale.
Mais juste, je t'interromps.
Oui.
C'est dans toute la ville, enfin toutes les villes de Chine ou c'est seulement dans les grandes villes ?
Ça se développe peu à peu partout en Chine. Normalement, ce sera pour toute la Chine.
Ok.
Du coup, maintenant, le maximum de points qu'on peut avoir, c'est 1300 points. Et le plus on a de points, le plus on a de privilèges. Donc ces privilèges, ils consistent à avoir des facilités pour obtenir un prêt ou des tarifs réduits pour certains services. Mais si on atteint des points trop bas, ce qui sont autour de 600 points, on peut être blacklisté pendant une durée entre 6 ou 5 ans, enfin 6 mois ou 5 ans. On a des difficultés à trouver des emplois, à obtenir des prêts et à voyager. Et tous les serveurs informatiques sont à Pékin. Donc, pour les récompenses et les sanctions, les villes... avec une bonne note, il pourrait être plus facile d'obtenir un crédit et d'inscrire son enfant dans une école privée, d'être nommé fonctionnaire, de passer en priorité à l'hôpital. Mais en revanche, quand on a un mauvais score, on peut ne pas avoir son permis, par exemple. Les entreprises peuvent avoir des amendes, etc.
Oui, donc en fait, c'est un système de points qui note les citoyens, mais aussi les entreprises.
Oui, c'est, en fait, au départ, c'était sur les entreprises, et c'est ensuite que ça s'est élargi sur les citoyens.
Ok. Et est-ce que tu sais concrètement quand, en fait, comment c'est évalué quand, enfin, pour avoir des bons points ou des mauvais points, est-ce que tu sais ce qui détermine le fait que ce soit bien ou pas bien?
Alors, en fait, au départ, on a 1000 points. Et donc, c'est surtout les mauvaises actions qui vont te déduire des points. Et pour ajouter des points, je sais pas, je crois que c'est... Je sais pas.
Tu sais pas, ok, bah, c'est pas grave.
Moi, je crois que, dans ma partie, on en parlera plus tard, mais je crois que, en fait, c'est pas du tout la même chose pour les entreprises et les citoyens. Et pour les citoyens, en fait, certes, on part de quelques points, mais on peut aussi en gagner. Par exemple, si on achète des choses, par exemple, saines pour notre santé, on va gagner des points.
Ok. Et est-ce qu'on sait combien de points sont retirés? Parce que tu parlais d'un seuil à 1000, et tu pouvais, à partir du moment où tu étais en dessous de 600, c'est ça?
Ouais.
Tu étais dans les mauvais points, c'est ça?
C'est ça.
Et donc, est-ce que tu sais combien ça retire ou combien ça ajoute? Non, on ne sait pas.
Non,
c'est... Okay.
Je sais pas. Donc, les objectifs de l'instauration de ce crédit social chinois, c'était de lutter contre la corruption et d'augmenter la sécurité. Ça a aussi une fonction éducative, car dans l'idéal, il permettrait de développer un autocontrôle qui étoufferait tout ce qui est négatif et tous les mauvais comportements. Donc, il y a une priorité sur le bien commun et il y a clairement une honnêteté du peuple qui augmente. Et aussi, les villes sont beaucoup plus propres. D'un point de vue économique, le gouvernement chinois a mis sur un effet de contrôle et de régulation du système d'évaluation. L'État veut documenter la quasi-totalité des aspects de l'activité économique et commerciale, vu qu'ils peuvent tout traquer. Et enfin, c'était aussi pour éviter les scandales alimentaires qui étaient à l'époque un problème en Chine. Alors, les limites de ce système sont la perte totale de confiance dans les citoyens et les entreprises. Clairement, tout a besoin d'être vérifié, surveillé, etc. Il n'y a plus aucune confiance. Et aussi, ça instaure un peu une honte et une angoisse chez les citoyens. Par exemple, sur chaque passage piéton, il y a un écran géant qui affiche le visage des piétons qui ont traversé au rouge. C'est pas très nécessaire.
Ah ben, tout le monde à Paris, hein.
Ouais. C'est pas nécessaire, mais c'est vraiment juste pour instaurer un système d'obligation de respecter les lois, etc. Et oui, ça fait la honte, quoi. Et l'idée est de faire honte aux contrevenants pour qu'ils se plient aux règles du code de la route. Voilà. Donc maintenant, je vous propose qu'on discute un peu des différentes représentations de ce système. Alors, par exemple, dans les médias, on a évoqué dans l'introduction le Black Mirror. Donc Black Mirror, c'est une série science-fiction qui explore les vices humaines, et qui met en image les dérives des situations dystopiques, surtout en lien avec la technologie. Donc l'épisode auquel on fait référence, c'est l'épisode 1 de la saison 3 qui s'appelle Chute libre. Qui ici l'a regardé?
Personnellement, je l'ai vu.
Moi, je l'ai vu aussi.
Moi aussi, je l'ai vu. Ouais.
Okay,
et moi aussi. Donc super, on va pouvoir en parler. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire un petit résumé ou je m'en charge?
Si personne... Je peux faire un petit résumé si vous voulez.
Comme vous voulez.
Parce que en gros, comme tu l'as dit, on voit que c'est une société où tout le monde a des points compris entre 0 et 5. Et tout le monde peut voir les points de chacun au moindre coup d'œil. Et en fait, c'est vraiment par rapport à ça qu'on se base, à savoir quand on a une note au-dessus de 4 ou de 3,5, on se dit qu'on est un citoyen plutôt correct. Et puis, quand on est en dessous de 3, ça commence à être un peu... un petit peu de... Enfin, un petit peu craignos, quoi, comme on peut le dire. Voilà. Et c'est pour ça que, à partir... Enfin, c'est très facile de descendre, en fait, de se voir octroyer des mauvaises notes. Donc, dès que tu passes le seuil de en dessous de 3, après, les gens, ils te côtoient plus et puis ils te notent mal. Parce qu'en fait, c'est chacun qui peut noter l'autre à chaque interaction. Et par contre, il est très difficile et puis c'est vraiment une angoisse au quotidien de garder un seuil très correct.
Ouais. Et j'ai remarqué, en fait, ça fait perdre l'authenticité des...
Ah mais oui, complètement, des interactions entre les gens. Parce que on peut clairement parler d'hypocrisie, je pense.
Ouais.
De fait, on craint tellement de recevoir une mauvaise note et de passer le seuil des 3 que on est gentil avec tout le monde, mais c'est de la fausse gentillesse en soi. Ouais. C'est pas parfait.
De toute façon, je pense qu'à partir du moment où tes discussions, elles mènent toujours à... elles mènent toujours à être écouté par d'autres gens.
Ah oui, c'est sûr.
Forcément, tu ne seras pas la...
À être écouté et surtout être jugé.
C'est ça. Et surtout, dans cet épisode-là, c'est un contrôle social. C'est pas le gouvernement qui le fait, c'est vraiment...
Les gens entre eux.
Ouais, les gens entre eux.
Donc, il suffit que quelqu'un ne t'aime pas pour que tous les jours, ils te mettent une sale note. Et puis après, tu descends rapidement, quoi.
Et une fois que tu es à zéro, c'est la prison. Alors que tu as juste... Peut-être t'as été vulgaire ou des choses comme ça. C'est pas...
Si ça se trouve, c'est un... En fait, dans l'épisode de Black Mirror, justement, c'est un enchaînement de malchance, finalement.
Ouais.
C'est un enchaînement de... Ça a démarré d'un tout petit truc qui, finalement, ça a eu des proportions énormes. Parce que l'héroïne de l'épisode, finalement, elle était au-dessus de 4 pendant toute sa vie, pratiquement. Et c'est seulement au bout d'un épisode... Un instant où elle a perdu un petit peu de points.
C'était à l'aéroport. C'était en sortant de chez elle, elle était en retard pour le taxi. Le taxi l'a mal noté.
Ouais.
Et du coup, à l'aéroport, elle n'a pas pu avoir. Enfin, elle a perdu un privilège, du coup. Et elle n'a pas pu avoir son vol. Enfin, elle n'a pas pu avoir le remplacement de son vol.
Ouais, c'est ça. L'avion premium, là, où je ne sais pas trop quoi.
Et du coup,
elle a tant pété pour ça. Et puis, on lui a fait retirer des points. Et puis après, comme les gens, ils ont vu qu'elle avait des points pas très élevés, à chaque fois, elle perdait des avantages et puis elle l'a noté mal. Donc,
Ouais, c'est ça. Parce que du coup, plus tu as des points bas, plus les gens vont s'attendre à toi d'être mauvais. Et du coup, le moindre truc que tu vas faire, ils vont être vachement regardants.
Ouais. Alors que ça se trouve, c'est juste un enchaînement de malchance qui font que tout ça, c'est pas ça. En fait, c'est pas une notation qui reflète vraiment qui tu es. Et puis c'est d'ailleurs le personnage le personnage qui l'aide, qui est à 1.4 ou je sais plus quoi, qui la prend en stop.
Oui.
Et puis qui lui dit avant j'étais comme toi, avant je faisais super attention à tout ça. Et puis à un moment il y a eu un ras-le-bol qui s'est créé. Et c'est pour ça que je suis descendue aussi bas. Et puis finalement c'est une personne qui paraît dans tout l'épisode la plus saine d'esprit. Je ne sais pas si vous avez le même avis que moi.
En fait, tous ceux qui avaient les mauvaises notes, c'était ceux qui avaient l'air le plus humain.
Ouais, c'est ça. Celle qui avait l'air la moins hypocrite, la plus saine d'esprit, la plus normale à nos yeux. Et les autres, juste des marionnettes qui font la course au point, quoi.
Ouais, donc clairement, Black Mirror, là, ils ont critiqué...
Ouais, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ce que tu as dit, Camille, c'est que tu as dit qu'au bout d'un moment, il y a une sorte de ras-le-bol. Et ça, en fait, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut arriver plus tard. C'est que, est-ce qu'au bout d'un moment, en Chine, par exemple, ils vont pas se dire,
qu'est-ce qu'on fait,
Qu'est-ce qu'on fait si... En fait, qu'est-ce qui se passe si jamais tout le monde a une mauvaise note? Est-ce qu'ils vont réévaluer leurs critères? Et est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont pas juste arriver à se dire, on va vivre avec, mais juste faire comme si qu'on en avait pas, quoi? Ouais. Et...
Après, d'un autre côté, il y a quand même une différence à faire, je pense. Parce que c'est vrai qu'on est d'accord, Black Mirror, l'épisode, tout ça... il est très dystopique, il est très dans l'exagération, dans l'hyperbole. Et en plus, c'est les gens, les citoyens entre eux qui se notent. Donc à la moindre contrariété, il suffit que, je pense que ça vous est déjà arrivé, de croiser quelqu'un, de lui parler, que ce jour-là, vous étiez de mauvaise humeur, que cette personne aussi, que vous ayez un échange très énervant. Et je ne sais pas, à ce moment-là, l'application comme dans Black Mirror qui vous demande « Alors, qu'avez-vous pensé de cet échange ? Notez la personne entre 0 et 5. » Et là, à ce moment-là, vous mettez 0 parce que franchement, vous n'en avez rien à faire, ça vous a énervé. Et finalement, ça ne reflète pas...
C'est ça. Est-ce que finalement, ça devrait compter autant que ne pas avoir traversé sur le passage piéton ou En fait, comment aussi... est-ce que tu hiérarchises les choses ?
Ouais, et puis aussi, pourquoi ce serait aux personnes entre elles, des personnes qui ne se connaissent pas et puis des personnes qui ne sont pas forcément de bonne humeur tout le temps ? Parce que c'est normal de ne pas être de bonne humeur tout le temps.
Et t'as pas besoin d'être gentil avec tout le monde.
C'est ça. Et en fait, là, ce serait une obligation, vraiment, et, comme je disais, de l'hypocrisie et tout. Et pourquoi ce serait aux autres citoyens de noter les autres ? Alors qu'en Chine, le crédit social chinois, ce sont pas les citoyens qui se notent entre eux.
Ouais, mais est-ce que le gouvernement est forcément plus légitime ?
Alors, ils le font par rapport aux règles, en fait.
Non, mais après, c'est surtout un outil de conformisme, un peu, genre... Enfin, tout le monde veut avoir une bonne note, donc les gens entre eux vont pas forcément se dégrader mutuellement. Par exemple, si moi, j'ai un échange un peu compliqué avec Camille, je vais pas lui mettre un 2, parce qu'elle, d'un autre côté, elle pourra aussi bien me mettre un 2.
Donc, ah bah, c'est justement c'est ce ta qu'on peur voit de réaction, dans... quoi.
Mais ouais, ça, c'est pourtant ce qui se passe dans Black Mirror. Ils sont vraiment en train de dire, je vais être meilleur que... Je vais être meilleur que les autres, donc les autres, ouais. Je vais mal les noter plutôt que moi essayer de... Enfin, moi, je vais faire un peu de la fausse gentillesse,
ouais.
Mais les autres, derrière, ils vont trinquer aussi, donc...
Ah, c'est sûr. Bah, je pense à, justement, comme tu parlais, Angelina, de l'épisode de l'aéroport, juste quand elle s'est pris une sanction par la sécurité, donc à savoir que temporairement, pendant 24 heures, elle a sa note baissée d'un point, et toutes les notes négatives qui sont doublées.
Ouais.
Et la réceptionniste de l'aéroport, pile après avoir reçu sa sanction, elle lui met une mauvaise note. Est-ce que c'est pas juste de la méchanceté pure et dure, enfin de la enfin c'est...
Bah c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où l'humain il peut restreindre les libertés de quelqu'un d'autre, s'il peut le faire, si c'est à son profit, il va le faire. Bah c'est ce qu'on voit en tout cas dans la série. Donc.
Bah c'est sûr. En fait, c'est aussi une façon de se débarrasser des gens qui te déplaisent.
C'est ça.
Donc tu te dis, bah eux, ils vont finir en tant que déchets de la société. Donc hop, une mauvaise note, de toute façon je t'aime pas, et puis hop, tu vas finir dans le ravin là-bas. Et,
mais est-ce que finalement personne, ça crée pas de la haine ? Ça ne fédère pas du tout en fait, ça divise plus que ça fédère. Parce que ça pourrait fédérer, ils pourraient être tous en train de se dire oui, enfin comme tu dis Lisa, on va tous se mettre des bonnes notes, on va tous y arriver ensemble, ça pourrait fédérer, mais on voit que bah du coup pas du tout quoi.
Bah surtout que c'est pas dans notre nature à la base d'être constant émotionnellement.
C'est ça.
Je sais pas, mais personne n'est tout le temps... constant à se dire je suis tout le temps gentil et heureux et de bonne humeur avec les gens que je croise et j'aime tout le monde même si l'autre il vient de m'insulter en fait je t'aime, je vais te mettre 5 enfin voilà c'est pas naturel
mais en fait le problème c'est que tu donnes trop de pouvoir aux gens parce que là dans l'épisode c'est les gens qui donnent donc comme on a dit la note à cette personne mais le problème c'est vraiment le pouvoir attribué quoi.
C'est vrai qu'on continue à faire cette différence avec le crédit social chinois où, comme tu dis, c'est le gouvernement, donc il respecte des règles. Est-ce qu'il est totalement impartial ? On n'en sait rien.
Après, mais, le gouvernement, il sert ses
toujours,
intérêts.
Oui, il sert ses intérêts, mais il sera toujours, par exemple, entre un échange entre deux personnes qui vont mal se parler, le gouvernement sera toujours plus impartial que la personne avec qui tu viens d'échanger. Donc, voilà.
Et du coup, là, dans la série, on avait aussi vu que ça faisait référence aux réseaux sociaux qui prennent de plus en plus contrôle de nos vies et de comment on se comporte, etc. Et est-ce que vous croyez que le crédit social chinois, il pourrait être mondialisé ? Justement, parce qu'en fait, on voit le rapport entre les réseaux sociaux et la technologie. Donc, est-ce que vous pensez qu'un comportement idéal, une bonne image... ça peut prendre le contrôle du comportement humain, partout dans le monde.
En soi, comme tu parles déjà des réseaux sociaux, on est tous d'accord que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils montrent le meilleur côté d'eux-mêmes. Ils vont pas montrer une galère, je sais pas, ils ont fini bourrés à une soirée, à la rigueur, c'est leurs potes qui vont les afficher. C'est les potes qui vont les afficher, mais... Oui, bon après, quand t'es bourré, généralement, t'es pas non plus hyper lucide sur tout ce que tu fais. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu beaucoup de gens qui affichent les malheurs quotidiens qui leur arrivent.
Bah non, clairement pas. D'ailleurs, c'est même dernièrement, il y a même eu un truc contre ça, justement, avec des gens qui se postaient en train de pleurer. Justement parce qu'il y en a... on idéalise toujours notre vie. Donc,
on essaie toujours de paraître sous notre meilleur jour. Et surtout que avant, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, c'est quand tu sortais dans la rue, t'essayais d'être propre sur toi, d'être poli, de tout ce que tu veux. Donc voilà. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, dès qu'il t'arrive un truc grandiose, ou même si t'arrive rien de grandiose, t'essaies de paraître toujours mieux. Juste une sortie en famille à la plage, tu vas te prendre en photo avec le soleil qui se couche, etc. Tu vas essayer de dire c'était un jour magnifique, alors que ça se trouve, c'était un jour comme les autres, t'es sorti à la plage avec ta famille, et puis ça se trouve, c'était même pas amusant, tu vois.
Ouais. Merci pour cette discussion. On est toujours sur Graphite, et on parle du crédit social chinois. Je vais passer la parole à Lisa, qui va nous dire un peu plus sur la liberté en Chine.
Alors moi, tout d'abord, on va quand même un peu recadrer tout ça. Et en fait, le crédit social chinois, comme l'a mentionné Angelina, c'est un système reposant sur des outils donc, de surveillance de masse et globaux. Il utilise les technologies d'analyse donc, du big data, mais selon l'idée que le crédit social chinois serait alors une restriction de la liberté, cela peut engendrer de nombreuses questions. Et on va vraiment essayer d'y répondre dans cette partie. En effet, nous ne sommes pas des êtres libres, ou du moins dans nos sociétés actuellement. Nous sommes alors soumis à des lois que nous devons respecter. Donc ça, c'est un peu la base de chaque société, on va dire. Dans de nombreux articles de presse, comme dans Le Monde, on entend parler d'une nouvelle forme de régime qui va décrire un petit peu le régime chinois. C'est ce qu'on appelle la contrôlocratie. Et en fait, la contrôlocratie, c'est l'idée de se cacher derrière de bonnes intentions pour le régime, mais finalement, le but semble être la chute de toute liberté afin d'exercer un contrôle total sur la population. Dans une première partie, on va parler des raisons pour lesquelles ce crédit a été mis en place. Puis dans une seconde partie, on va montrer que ce système s'éloigne totalement et prive la population chinoise de toute liberté. Tout d'abord, donc, en 2018, selon le Foreign Policy, il ne s'agit pas d'un système orwellien. Donc système orwellien, un livre de George Orwell de 1984. Et souvent, en fait, on relie le crédit social chinois à ce livre. Puisque en fait on a les mêmes effets, c'est-à-dire la chute de la liberté d'expression et bien d'autres fins de liberté. En fait, ce système, il vise plutôt à pousser, donc comme l'a dit Angelina, entreprises et citoyens à respecter leurs obligations légales, c'est-à-dire par exemple rembourser des dettes en bloquant par exemple les achats de produits de luxe ou des billets de voyage, respecter la législation sanitaire, conformité des produits, etc. Donc en fait, ça sert vraiment à respecter certaines obligations légales mises en place par l'État et le régime, en s'inspirant du Credit Score des États-Unis, comme l'a toujours bien dit Angelina. Et en fait, c'est la création d'un système. On ne peut pas dire que les citoyens du monde soient plus libres que les Chinois sous ce système de crédit. Et le système de crédit social chinois est présenté comme un moyen important de parfaire l'économie sociale de marché, ainsi que de renforcer et renouveler la gouvernance de la société. Cependant, si le crédit donc, social chinois n'est pas la dystopie qu'on s'imagine, donc soit avec Black Mirror, ou 1984, en fait, ça restreint fortement les libertés de parole et les libertés politiques, puisque c'est un instrument donc, politique destiné à étouffer les critiques du régime et notamment prévenir de possibles dissidences politique et sociale, jusque sur Internet. On a par exemple le système d'évaluation individuelle en ligne qui s'appelle le Sésame Crédit. Et en fait, le Sésame Crédit, c'est un système donc, qui est indépendant du régime chinois. Et au-delà d'être commercial, il permet de noter la qualité des citoyens de façon générale pour en faire un instrument de contrôle social. En fait, on a des algorithmes secrets de l'entreprise donc Sésame Crédit qui traitent les données de 400 millions de clients en ligne d'Alibaba ainsi que celles de partenaires comme BI, je ne sais pas si ça se prononce comme ça exactement. Et en fait, c'est un réseau social de rencontres de 90 millions d'utilisateurs. Et en fait, l'objectif du gouvernement chinois rejoint l'objectif donc, de Sésame Crédit qui semble être finalement de pousser la population à devenir des sortes de joueurs patriotes qui seraient en compétition permanente, donc comme on l'a déjà évoqué dans Black Mirror, les uns avec les autres pour obtenir le meilleur score social. De ce fait, le crédit social chinois nuit à la liberté d'expression, la liberté politique, de rassemblement, de communication ou bien d'autres libertés. Et un des problèmes majeurs de ce système est qu'il a pour but de définir le parfait citoyen en limitant certains choix de vie, puisque finalement les citoyens ne peuvent pas décider de comment vivre leur vie, etc., puisqu'ils sont influencés par leurs notes après. Et en fait, ça entraîne de nombreuses inégalités. Ça entraîne l'autocensure, la fin de toute liberté. Et en effet, selon le gouvernement, être un bon citoyen reviendrait à des personnes qui suivent aveuglément des règles sans jamais s'exprimer en défaveur du régime. Donc finalement, le régime chinois s'éloigne, voire supprime toute liberté de ses citoyens en favorisant la surveillance, la délation, le contrôle aussi bien social que politique et également l'autosoumission. Et en fait, tous ces aspects donc, vont finalement rejoindre la dystopie du livre donc, de George Orwell, 1984. On a également l'omnipotence donc, de l'État, qui est contenue dans le projet de crédit social chinois. Donc, quand je dis omnipotence, c'est vraiment tout le régime chinois va contrôler donc, la vie de ses citoyens. Donc on a un contrôle qui est social, mais on a également un contrôle qui est politique. Le cas de la Chine est beaucoup plus compliqué dans le sens où c'est déjà un système plus qu'autoritaire. Donc les libertés sont déjà grandement réduites. On peut alors légitimement s'interroger sur le cas de notre démocratie. En effet, rien ne garantit que ce cas donc chinois n'inspire pas d'autres nations. Et ça, c'est ce qu'on va vraiment voir avec Antoine dans sa petite partie. Et en fait, la réelle question est jusqu'à où ira le contrôle offert donc par les big data. Et finalement, là, on va cette fois entrer dans un quiz. Donc, je vais vous poser donc, 4 petites questions où vous pourrez donc me répondre tous librement. Et en fait, imaginons que là, on va se mettre dans la jauge du crédit social chinois. Et je vais vous poser donc à peu près 2 questions. Et vous allez me dire si, selon vous, ça peut augmenter votre score, baisser votre score ou ne pas l'impacter, tout simplement.
Ça marche.
OK, tout le monde est prêt?
Yes.
Alors, la première question, c'est imaginez que vous offrez donc un bijou pour la fête des mères, par exemple, à votre maman, pour son anniversaire. Elle est ravie, du coup, elle va le porter. Et à votre avis, est-ce que ça baisse votre score, ça augmente votre score, ou ça le change pas?
Ça le change pas.
Ça l'augmente?
Ouais, soit ça change pas, soit ça l'augmente. Je veux dire, ça l'augmente... Ouais.
Bah, faire des cadeaux...
Bah, en soi, si on part du principe que c'est le crédit social chinois, donc ça va être enregistré le fait que tu l'aies acheté, et le fait que ta mère le porte... Dans la rue, ça va se voir. Donc ça veut dire que tu l'as acheté pas pour toi. Ça peut l'augmenter en soi, non?
Eh bien, étonnamment, ça va baisser votre score.
Ah.
j'ai été un peu choquée un petit peu. Mais en fait, le fait d'exhiber donc, sa richesse, donc par exemple le bijou de votre mère, si elle le porte dans la rue, ça va être considéré un peu comme moi j'ai de la richesse, je possède des choses et je vais le montrer.
Ok, et du mais coup, dans ce cas, c'est notre score qui va baisser ou le score de notre mère?
C'est le score de votre mère.
Ah, et dans ce cas, le nôtre, est-ce qu'on sait ou pas?
Le vôtre, ça va pas être impacté.
Ça va pas être impacté.
Non, le vôtre, il va pas être impacté.
On a le droit d'acheter des bijoux ou quoi, mais
on a pas le droit de les porter. Elle a pas le droit de les porter en public, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est le cadeau personnel okay. qu'elle va garder, quoi.
Autant acheter du toc, alors.
Voilà, c'est ça. En fait, vous pouvez pas sortir avec un signe ostentatoire de richesse, quoi. Okay. Sinon, vous baissez un petit peu. Donc la deuxième question, c'est vous décidez, là personnellement vous, d'aller acheter par exemple du thé dans un supermarché. À votre avis, ça baisse votre score, ça augmente votre score ou ça le change pas?
Du thé.
Alors est-ce que ça va partir un truc chelou comme ce que tu viens de nous proposer, ouais. À savoir qu'en fait on doit cultiver nous-mêmes notre thé?
Je suis très méfiant maintenant.
Ouais. Peut-être il faut l'acheter dans des boutiques spécifiques.
Des boutiques de thé, ouais, et pas au supermarché.
Non, moi je dis que ça change pas.
Okay. Moi je dis ça le change pas.
Ok, pour aller à contre-courant, je veux dire que ça le baisse.
Et vous avez tout faux, ça va augmenter votre score, car cela montre que vous faites attention à votre santé en choisissant de boire du thé plutôt qu'une autre boisson.
Ça l'augmente. Tu sais combien ça augmente?
Non, je sais pas vraiment, mais c'est pas énorme. C'est
en fait... un point ou genre 10 points.
Ouais. À mon avis, c'est pas énorme. Des petits achats, tout c'est... ça, ouais. ça doit être minime. Hein.
Oui, non, c'est pas comme des actions.
Sinon,
c'est vraiment
un
achat.
Tu sors de prison en achetant du thé, quoi.
Voilà. En fait, c'est pareil. C'est, tu choisis par exemple entre une. J'avais vu ça. C'était entre acheter des couches culottes et acheter un paquet de cigarettes. Ça va influencer le fait que tu achètes un paquet de cigarettes.
Et même le fait que tu achètes des choses au supermarché, t'es plus libre d'acheter ce que.
Mais tout est traqué.
Ça dépend. Non, tu peux encore acheter des cigarettes, mais c'est
oui,
juste que...
Mais disons que si tu t'inquiètes de ton score, si tes limites...
Ah, c'est ça.
En fait, ouais. Si par exemple, tu frôles les 600 points et que t'achètes un paquet de cigarettes...
T'as pas intérêt à en acheter, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait, ça montre vraiment qu'ils sont même sur le contrôle de ta santé propre. C'est même pas le contrôle social ou etc. Ou être là, tu peux...
Et donc ça, c'est déjà mis en place que ça impacte sur tes achats?
Oui, okay, ça, okay. C'est déjà mis en place pour tout ce qui est...
Pour prendre soin de toi.
Voilà, mais après, c'est pas général à toute la nourriture. Par exemple, si je vais acheter un paquet de mouchoirs, ça va pas impacter.
Je vois. Ok.
Alors, la troisième question, là, on va s'éloigner cette fois de cette idée de score. Et selon vous, si une personne est sur la liste noire, donc liste noire, c'est quand on n'a pas du tout de points et on est un peu l'ennemi de l'État, un petit peu l'ennemi de l'État chinois, c'est-à-dire qu'on a le plus bas score, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Donc, je vais vous citer 4 questions, et à votre avis, vous allez me dire ce que vous pensez qu'on a le droit de faire. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a le droit de voyager en dehors du pays quand on est sur liste noire ?
Non.
Bah non.
Sûrement pas.
Est-ce qu'on a le droit d'obtenir un crédit bancaire quand on est sur liste noire ?
Non plus.
Est-ce qu'on a le droit de créer une entreprise quand on est sur liste noire ?
Alors je pense pas, non.
Je pense clairement pas non plus. Pas, non.
Et d'acheter un appartement ?
Non.
Bah en vrai, tu vas vivre à la rue, ouais.
Sinon, parce qu'après tu vas vivre à la rue, ça va encore te retirer des points.
Sur location, ou peut-être c'est pas un appartement mais une cabane dans les bois que tu peux seulement te louer.
Bah, là je me base sur Black Mirror, parce que Black Mirror justement il fallait un crédit spécifique pour obtenir la maison qu'elle voulait acheter. Du coup je me dis, si t'as pas un bon score tu peux pas l'acheter.
Ouais, mais après,
peut-être ça dépend des appartements.
Peut-être
des quartiers.
Ah, ouais, c'est vrai.
Et, et le dernier, c'est est-ce que quand vous êtes liste noire, vous avez le droit de fréquenter des parfaits citoyens ?
Oui.
Bah, du moment que t'es pas en prison, tu les fréquentes en fait.
À votre avis, qui.
Après, si t'es sur liste noire, t'es pas loin d'être en prison quoi.
Après, ça se trouve, ils veulent pas te fréquenter, mais t'as le droit.
Disons que, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de les croiser au supermarché ?
Bah non.
Non, mais quand je dis fréquenter, c'est fréquenter, c'est pas genre je dis bonjour et on boit un café. Enfin, aussi.
Fréquenter, c'est être ami, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, t'as le droit.
Ok, bah.
En vrai,
c'est. Oui, et puis en plus, c'est difficile à contrôler, ça.
Ouais, c'est ça.
Et bah, vous avez raison, en fait, on a le droit de fréquenter des personnes qui sont décrites comme des parfaits citoyens, sauf que eux, ils voudront pas vous fréquenter. Parce que bah, vous êtes sur liste noire.
Ça dépend, si on. Ça fait longtemps qu'on est amis.
Un ami d'enfance et tout.
Ah non, mais.
Ouais, mais après, dans Black Mirror, on voit vraiment l'inverse, tu vois.
Ah oui, donc mais là, c'est parce qu'ils sont déjà tous hypocrites. Les cultures orientales, on n'y est pas, donc on ne sait pas.
Mais même sur, par exemple, moi, j'ai regardé un documentaire et en fait, c'était vraiment les gens... Bon, après, tu vas en parler dans ta partie, ce que les citoyens chinois en pensent. Il y avait une personne, une femme qui était vraiment une parfaite citoyenne et elle ne voulait pas rester avec des gens qui avaient un plus bas score qu'elle, parce qu'elle faisait partie d'une certaine élite, entre guillemets.
Ah ouais, le melon.
Non, mais c'est ça. Et encore moins si c'était une personne qui est sur liste noire, parce que c'est quand même l'ennemi. On met ta tête sur des...
Oui, liste noire, en fait, ça paraît vraiment diabolisé, quoi.
C'est ça, mais on affiche ta tête partout, les gens veulent plus te fréquenter, t'as plus d'emploi, t'as pas d'appartement, enfin t'as rien.
Mais en soi, c'est comme quand on disait tout à l'heure par rapport à Black Mirror, il suffit qu'il y ait un enchaînement de gaffes, enfin je sais pas, un enchaînement.
Mais je crois pas que ça va aussi vite que ça.
Oui, à mon avis non plus, parce que là c'était vraiment des notes entre 0 et 5, tout le monde te note, c'est une moyenne, etc.
Bah c'est ça, là déjà t'as pas tout le monde qui te note.
Ouais, non, c'est vrai.
Bah en fait ça dépend du régime chinois.
À mon avis, ça dépend aussi de la gravité de ce que tu fais.
Oui. Et la dernière petite question, c'est est-ce que selon vous, si vous résidez en Chine, donc par exemple si Angelina décide de voyager en Chine pendant, je sais pas moi, 4 mois, est-ce que le crédit chinois s'applique également, va s'appliquer à toi ou pas ?
Alors là,
résident comment ?
Résident,
t'habites là-bas.
Résident par exemple. Ouais, par exemple, okay.
Si je fais mon Erasmus là-bas, tu vois.
Si par exemple toi tu décides plus tard d'ouvrir une entreprise en Chine.
Ah bah oui.
Alors là, l'entreprise, oui. Mais en fait, le truc, c'est que comme on disait que ça fonctionnait sur base de caméras de vidéosurveillance, faut juste que le visage de Angelina soit dans les bases de données.
Non, mais faut aussi, je crois, il y a quand même un.
Mais sinon, si tu crées une entreprise là-bas, mais carrément, parce que tu disais que ça.
Oui, l'entreprise. Noter les entreprises. Oui. Mais après, si moi je voyage, normalement,
bah,
non.
Bah, en fait, les étrangers qui résident donc un certain temps minimal, j'ai pas vraiment le mot en tête, enfin, c'est quand même une durée assez longue, et bien en fait, ils vont se retrouver d'autant plus sur liste noire, parce qu'ils savent pas comment ça marche, et du coup, ils vont être privés de certains droits, comme celui de prendre l'avion, et du coup, on a.
Ils sont
bloqués là-bas.
Ouais.
Okay. Donc, du coup. Maintenant, on va écouter donc Antoine qui va nous montrer si ce système est applicable donc à la France.
C'est ça. Vous êtes toujours sur Graphite. On parle du crédit social chinois. Et donc, du coup, je vais vous parler maintenant du crédit social chinois. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'appliquer en France ? Parce qu'à première vue, ça peut paraître impensable que dans notre démocratie jugée parfaite, on puisse voir un jour l'arrivée d'un tel projet de traçage de personnes. Et pourtant, la question n'est pas aussi facilement répondue que ça. Parce qu'en effet, la réalité est qu'aujourd'hui, le monde entier n'est pas si loin d'un de ces systèmes. Ben oui, pensez à toutes ces applications où nous sommes notés en permanence, que ce soit Uber, Airbnb et plus généralement toutes les applications mettant en relation les particuliers. Nous sommes déjà tous notés par nos voisins, nos clients et nos fournisseurs de services. Ne parlons même pas des entreprises qui sont notées sur Internet absolument vraiment partout. C'est pourquoi la réalité n'est pas finalement si simple. C'est pourquoi la réalité est qu'il n'est pas si simple de répondre à la question de si on peut un jour voir l'arrivée d'un crédit social français.
Compliqué cette phrase.
Compliqué. En outre, si nous restreignons ce débat à la France, nous pouvons aussi parler de la vidéosurveillance qui fait débat ici, à Compiègne. Notons que à Nice, il y a déjà la vidéosurveillance à reconnaissance faciale. Parler de Nice, ça me permet de faire la transition avec l'Italie. Parce que là-bas, il y a déjà un crédit social qui sera mis en place dans les villes de Rome et de Bologne dès cet été. Il y a tout de même des différences avec le crédit social chinois parce que ce système italien se base sur une application qui récompense les bons citoyens. Pour le moment, cette application est dédiée aux volontaires uniquement et elle est pour le moment unilatérale. Unilatérale, ça veut dire que c'est uniquement les bonnes actions qui pour le moment sont récompensées. On ne sait pas quel sera l'avenir de cette application. Est-ce que ça sera obligatoire? Est-ce qu'il va y avoir un côté bilatéral avec des actions négatives? Ça, on ne sait pas encore. Mais ça soulève du coup énormément de questions, notamment en Chine. Est-ce qu'on peut parler d'une restriction de liberté, d'une déshumanisation en quête du citoyen parfait, d'une atteinte aux libertés fondamentales en fait? Ce système permet de réduire drastiquement l'incivilité, mais il représente en lui-même un grand danger pour ses citoyens, pour les citoyens d'un pays. Et avec l'utilisation de plus en plus massive en Italie et l'arrivée de la vidéosurveillance massive partout dans le monde, eh ben, ça nous montre que finalement en France, on n'est vraiment pas si loin de ce système. Surtout que quand on voit que ce système est appliqué par des gens qui sont de plus en plus extrêmes au pouvoir, la Chine elle est sur un extrême, l'Italie, cette application elle a été mise en place par un extrême aussi. Donc du coup, est-ce que finalement l'idée d'avoir toujours une extrémité qui monte partout dans le monde. Est-ce que finalement, vous pensez que ça va peut-être un jour arriver en France, suite à ça, justement?
Moi, je crois pas qu'on l'accepterait.
Alors, moi, je suis... quand tu parles d'extrémité, donc ce serait que le gouvernement, un jour, on vote extrême droite ou extrême gauche, tout ça, et que ça puisse arriver ici. En vrai, j'ai du mal à le croire. Parce que justement, on est en France, donc c'est vrai que comme tu le dis, il y a déjà quelque chose à Nice, tout ça, et qu'on commence à en voir apparaître d'un peu partout. Mais d'un autre côté, dans notre devise, on a liberté. Et je crois que juste pour ça, en tant que Français, les gens iraient manifester ou...
Parce que tu penses qu'en Italie, ils ont eu le choix d'aller manifester ou...
Je sais pas, mais quand tu prends ceux qui se présentent aux élections présidentielles, même qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, ils ont énormément peur de l'opinion publique. Donc je sais que c'est parce qu'ils sont en mandat, qu'ils ne sont pas encore élus, etc. Mais je pense que les gens, ils craignent aussi beaucoup ça. Et puis si c'est les citoyens qui pensent ça, je pense que ceux qui se présentent aussi aux élections, même si ce serait sous leur contrôle, ce serait limite pour eux aussi. Enfin, ils se diraient « Attends, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Et rien que par esprit de contradiction aussi, parce qu'on est en France, donc l'esprit de contradiction par rapport aux autres pays, tout ça.
C'est pas faux, ouais. Mais après...
J'ai pas bien compris. Du coup, tu parles de... Enfin, c'est applicable à la société ou applicable genre aux entreprises, etc., etc.
La question est générale, vraiment.
Ok, donc moi, je pense qu'en vrai, franchement, c'est probable qu'on ait des choses comme ça en France. Par exemple, où on ait une vérification, par exemple, des vérifications... d'achat bancaire, par exemple, si tu veux faire un emprunt, etc., etc. Je pense qu'il y a des vérifications qui peuvent être faites sur est-ce que tu dépenses beaucoup.
Le cas, non
voilà, après, c'est le cas en fait.
Mais après, est-ce qu'on instaurerait la reconnaissance faciale?
Non.
Ça, pourtant, c'est déjà le cas. Là, on parle de la Chine, on dit oui, c'est loin, c'est la Chine, machin, mais c'est le cas en Italie, c'est genre juste à côté. Et
il y a deux ans. Ouais, mais l'Italie, on sait tous qu'ils sont.
Ouais, mais il y a deux
ans. Extrême, extrême, extrême droite.
Maintenant, oui, mais il y a deux ans, personne n'aurait dit oui, il va y avoir un crédit social italien.
Oui, après, rien n'est impossible.
Oui.
Rien n'est impossible.
Oui, on peut toujours faire des hypothèses, dire au cas où il y aurait machin qui serait élu, il est l'idée de...
Après, on parle de vidéosurveillance à reconnaissance faciale, c'est pas dans un petit bled dans la campagne, c'est à Nice, qui est quand même un peu une grande ville. Donc, ça montre que vraiment, peut-être il y a une idée là-dedans que... Et peut-être que finalement...
Après, est-ce que ce serait vraiment basé sur la même idée qu'en Italie ou en Chine de vraiment contrôler... Enfin, je sais pas.
Alors, pour le moment, on est juste à de la surveillance.
Ouais.
L'Italie, c'est différent. On est sur... parce qu'en fait, sur la vidéosurveillance à Nice, on est vraiment dans une idée de dénoncer le mal. Alors que l'application italienne, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt récompenser le bien. Donc, il y a deux façons de voir les choses.
Okay. Mais après, je crois que ça, c'est aussi un moyen de l'instaurer doucement.
Ah, tu vois. Mmh.
C'est ça.
Au départ, on vous récompense et plus tard,
parce que c'est vrai que, c'est vrai que moi, j'ai vu quelques articles sur Internet où, en fait, ils disaient tous...
C'est des récompenses.
Ils disaient tous que pour le moment, c'est comme ça, mais qu'ils ne savaient pas ce qu'ils lanceraient dans deux ans. Donc, on verra bien.
Ça dépend si la personne qui est au pouvoir est réélue ou pas en Italie, peut-être.
Ouais, ou de l'acceptation des citoyens, de l'acceptation de l'application par les citoyens.
En soi, j'en sais pas grand-chose. Hein. C'est pas toi, t'en penses quoi concrètement ?
Moi, je pense que ça peut peut-être arriver et qu'on en est vraiment pas loin. Donc, en fait, quand on voit toutes ces applications... où on nous parle de noter... quand on prend un Uber, par exemple, on est noté en tant que passager, on est noté en tant que conducteur. Quand on prend Airbnb, on est noté en fonction de notre logement ou de comment on a utilisé le logement. Donc finalement, on n'est pas si loin que ça. On est déjà noté par justement nos pairs. Donc, je ne sais pas. Non, nos pairs PAIR, oui.
Non, mais en vrai, je pense que le système de notation, je pense, il y est déjà, tu vois, tu l'as dit. Après, c'est plus tu parlais de quoi, de la reconnaissance
faciale?
En
fait, c'est faciale. La reconnaissance faciale, ouais, qui embête.
C'est ça. C'est parce que tu...
C'est le fait de relier toutes tes actions.
C'est ça.
Relier à toi.
Bah, le fait, tu sors dans la rue, t'as parlé à telle personne, on le sait. T'as acheté ça, t'es allé là, ça on le sait.
Non, en vrai, c'est vrai que comme tu dis, en Italie, on s'y attendait pas et tout. D'un autre côté, en France, ça paraît vraiment. On n'est pas du tout sur cette optique-là de surveillance et de. Même par rapport à des récompenses. Et puis, c'est un coût, faut le mettre en place. En vrai, et puis, on sait très bien que. En France, on n'est pas méga motivé à faire des changements radicaux comme ça.
Et même pour des récompenses, je crois pas que ça. Ça nous plairait.
Ah, je pense que même pour des récompenses, est-ce que ça fait vraiment...
Alors honnêtement, ça dépend des récompenses. Hein.
Ah ouais ?
Si pour traverser au vert sur le passage piéton, on me donne, une belle somme d'argent,
Ah ouais, mais qui te donnerait une bonne somme d'argent pour traverser au vert ? En plus, je le fais déjà, tu vois. Donc...
C'est des avantages, c'est pas genre des... C'est pas monétaire.
C'est ça. En
soi, c'est aussi pour
en
ta
Chine, conscience. En Chine, c'est des avantages, mais du coup, en Italie, c'est vraiment... C'est vraiment des récompenses. Alors, je ne sais pas de quoi ils parlent quand ils disent récompenses, mais...
Mais je crois pas que c'est possible que ce soit de l'argent.
Ah, si, en Chine, tu as des avantages monétaires. Par exemple, une femme...
Bah déjà, tu peux travailler.
Mais non, mais même au-delà de ça, une femme dans
un... T'as un mauvais crédit, tu ne peux pas travailler.
Non, mais même quand tu prends un bus, la vidéo que j'ai regardée, c'était vraiment une femme qui donc, était une parfaite citoyenne et elle avait le bus qui était totalement tarif réduit. Donc, au final, c'est un gain d'argent pour elle puisqu'elle en dépense moins. Donc, elle a un gain monétaire. Tu vois ce que je veux dire ?
D'un autre côté, pour mettre ça en place, il faudrait vraiment qu'il y ait... Que ce soit
basé sur le comportement.
En fait, je sais pas, mais faudrait vraiment que ce soit n'importe quoi en France pour que on aille jusqu'à ce genre de méthode, non ? Vous pensez pas ? Parce que
moi, je trouve que c'est vraiment un contrôle de l'individuel.
Ouais. Enfin, je sais pas. Genre, faudrait vraiment que il se passe tout et n'importe quoi ici pour qu'on se dise, faut vraiment qu'on mette en place quelque chose, une récompense. Enfin, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu, on est tous des enfants ou limite on est tous des animaux, des animaux.
Je comprends. Ouais,
l'homme est un animal, bref. Ouais. Mais qu'on est tous des gentils petits animaux de compagnie qui, quand on fait un truc de bien, on a une récompense et puis sinon on a une petite tape sur les fesses, quoi. Donc non, en vrai, j'ai du mal à imaginer ça ici. Enfin, faudrait vraiment que rien qu'une question de volonté dans la population française, quand tu vois le nombre de gens qui sont contre plein de trucs alors qu'ils savent même pas de quoi ils retournent.
Ok. ça marche. Du coup, je vais te parler là, je vais te passer la parole, pardon, Camille. Oui, Camille. Désolée. Pour que tu nous parles un peu de qu'est-ce qu'en pensent les citoyens chinois.
Oui, alors, comme nous avons pu le voir depuis le début de l'émission, donc le crédit social chinois est considéré comme un projet plus qu'ambitieux au niveau social. Et il consiste à attribuer un score de crédit social aux citoyens chinois en fonction de leurs activités et actes sociaux, économiques ou autres. Donc le système de liste noire, etc., qui exploiterait le big data, donc la géolocalisation, l'historique des achats, le contenu des médias sociaux, les images de vidéosurveillance de la technologie, équipées de la technologie de reconnaissance faciale déjà testée dans les villes, etc. Donc... ici, on le qualifie beaucoup de système orwellien, contrôlant l'humanité ou comparé à un épisode dystopique de la série Black Mirror. et ça reçoit de nombreuses critiques négatives dans les pays occidentaux. Maintenant, je vous parle de l'article de, alors excusez-moi pour la prononciation, Xin Yuan Wang, qui a effectué une recherche anthropologique de terrain de 16 mois en Chine, entre 2018 et 2019, et qui a pu recueillir un petit peu les avis chinois, enfin des citoyens chinois, ce qu'ils en pensaient de tout ça, du crédit social chinois, etc. Et donc, vous pourrez peut-être être surpris, mais la majorité des citoyens chinois ordinaires accueillent favorablement le crédit social chinois. Je m'en vais. Mais ils voient cela comme un projet national visant à renforcer la moralité publique, à lutter contre la fraude et d'autres crimes, et à résoudre de manière générale la crise de confiance nationale qui sévit dans le pays. Alors pourquoi est-ce que je parle de crise de confiance nationale ? Donc à quoi est-ce qu'elle est due ? En fait, il faut dire que le fait de considérer quelqu'un comme digne de confiance est de plus en plus difficile en Chine depuis les 50 dernières années. Donc il y a eu, entre 1966 et 1976, la révolution culturelle de Mao, où les familles se retournaient les unes contre les autres, étaient obligées de dénoncer tout ami ou membre de la famille qui était jugé contre-révolutionnaire pendant cette période-là, donc pendant 10 ans quand même. Et non seulement il est devenu difficile de faire confiance, mais il était aussi difficile d'obtenir la confiance mutuelle dans la durée. Ce qui veut dire que tu n'accordais pas facilement ta confiance, tu avais du mal à ce que l'autre personne te fasse confiance, et même si ça arrivait, c'était difficile de la conserver. Donc, de plus, on peut parler du fait que la Chine, avant, était une société agricole. Donc, elle reposait beaucoup sur la culture, sur les rizières, sur tout ça. Les gens, ils étaient plutôt fixes, donc ils restaient dans leur campagne, tout ça. Et donc, que ce soit géographiquement ou socialement, c'est-à-dire qu'ils gardaient tout le temps le même métier. Si, par exemple, t'étais fermier, eh ben, t'étais fermier de père en fils et tu restais fermier. Donc, on savait qui était qui, on savait qui habitait où, on se connaissait. Et depuis cette période-là, la Chine, comme on a pu le voir, a subi une urbanisation très très rapide, parce que maintenant, elle a construit ses villes, tout ça. Et il y a eu d'énormes réformes économiques axées sur le marché. Ce qui fait qu'il y a eu une migration interne en Chine, très massive, au cours des 30 dernières années. Donc les gens des campagnes allaient en ville. Et cela a causé le fait que la population chinoise a du mal à faire confiance aux gens parce que beaucoup de citoyens chinois, enfin, parce qu'ils ne connaissent plus les gens, en fait, qui habitent autour d'eux. Et il faut savoir que beaucoup de citoyens chinois se considèrent comme victimes de fraude. Donc, beaucoup de méfiance envers les personnes qui viennent des campagnes, qui ont migré dans les grandes villes, qui ont peu de revenus, donc cela est associé à une mauvaise qualité de vie, que personne ne les connaît, donc ils ont la possibilité d'avoir de faux papiers, des documents falsifiés, donc possibilité de voler, de frauder et de partir sans laisser de traces. Donc concrètement, ton voisin, il arrive, tu sais pas qui c'est, il te dit « Oh bah je viens pour, je sais pas, en fait je suis plombier, vous avez un problème de plomberie, bah je vais venir vous aider. » Et puis toi tu fais confiance. Et puis en fait, il arrive chez toi, il te vole des trucs, il s'en va, il déménage et tu sais jamais qui c'est, quoi. Donc, j'ai également un exemple qui est dans l'article de Xin Yuan Wang, de Madame Liu, 35 ans, qui cherche une nounou à domicile à temps plein pour s'occuper de son bébé, car sa mère ne pouvait pas en raison d'une mauvaise santé. Et donc, elle s'est retrouvée profondément troublée par les histoires qu'elle entendait sur les nounous à domicile. Donc, comme quoi on ne pouvait pas leur faire confiance, tout ça. Et elle a fini par installer des caméras et des micros de surveillance chez elle, donc elle les a cachés dans sa maison, pour tester les différentes nounous, suite aux suggestions de ses amis, donc c'est même ses amis qui lui ont conseillé de faire ça, et elle a embauché celle dont le comportement était le plus digne de confiance lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Donc c'est pour dire la méfiance qui se passe ici, quoi. Et en effet, on peut voir qu'il existe de nombreux cas de fraude et d'escroquerie où la victime n'est pas indemnisée pour le crime et le contrevenant peut simplement déménager ou changer d'entreprise sans laisser de traces, donc comme je vous ai dit jusqu'avant. Et donc ce serait là que le système de liste noire interviendrait en ne payant pas ses dettes ou amendes, en fraudant ou autre, on récolte des malus qui peuvent mener jusqu'à la liste noire Et une fois dessus, on aurait les désavantages comme on connaît. Donc, on ne pourrait plus voyager, on ne pourrait plus avoir d'emploi, on ne pourrait plus... Enfin, d'emploi dans telles entreprises, etc. Et puis, enfin, voilà, quoi. On ne pourrait plus séjourner dans des hôtels de luxe, rejoindre la fonction publique, tout ce genre de choses. Et cela pourrait dissuader l'escroquerie, la fraude, mais aussi les actes non civilisés, comme couper les files d'attente, grâce aux caméras de vidéosurveillance équipées de la technologie de reconnaissance faciale. Et donc, il n'y a pas que l'exemple de Madame Liu, donc dans l'enquête menée par Xinyuan Wang, Monsieur Zhu et Madame Liu se considèrent comme de bons citoyens, donc comme Lisa le disait tout à l'heure, hein, les gens qui se considèrent comme un citoyen parfait. Et ils pensent que seuls les mauvais citoyens devraient s'inquiéter du système de crédit social chinois. Ils ajoutent que la vidéosurveillance pourrait parfois être secrète pour punir ceux qui agissent mal quand ils pensent que personne ne les regarde. Donc ce serait même plus une caméra pour deux personnes, comme tu disais Angelina tout à l'heure, ou qui sont dans les rues, qui surveillent les gens. Ce serait parfois des gens qui cachent des caméras, soit sur eux, donc concrètement la police, hein, je pense, qui se promènent dans les rues habillés en civil, qui cachent des caméras sur eux, et ou alors dans des qui cachent des caméras dans des endroits un peu cachés.
Est-ce qu'on peut pas imaginer, je suis désolé, je te coupe,
ouais,
est-ce qu'on peut pas imaginer même des citoyens qui gagneraient des crédits pour cacher une caméra sur eux?
Bah voilà, on n'en sait rien, mais qui cacherait du coup des caméras un petit peu partout pour prendre vraiment en flagrant délit quelqu'un qui pensait n'être surveillé par personne, quoi. Et que ce soit donc pour une action grave comme une toute petite action, je sais pas, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, traverser au feu rouge, je pense qu'ici, il y en a plus d'un qui le fait, hein, même si, bon, personne...
Mm-hmm. Ah bah moi, je suis là, mm-hmm. Hein.
Ah bah voilà, on a un exemple sous les yeux, et voilà, quoi. Et là, en fait, tu serais constamment fliqué, mais vraiment, et là, c'est même pas ce qui est en train de se faire en Chine, c'est une proposition de citoyens chinois qui disent que ils sont tellement dans l'insécurité, ils craignent tellement tout ça, qu'ils seraient prêts à ce qu'il y ait des caméras de surveillance cachées, donc même pas à vue, qui feraient qu'on prendrait les gens qui agissent mal, quoi. Voilà. Donc, j'en ai fini pour la vie des citoyens chinois. Je pense que ça a pu vous surprendre. En tout cas, moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça.
Ouais, moi aussi, clairement. Ils sont là, en fait, ils veulent encore plus que... Enfin...
En fait, ils sont très concernés par les autres. Enfin, en France, c'est je vis ma vie, les autres ils font ce qu'ils veulent, mais ici c'est vraiment...
Non, c'est parce que je pense qu'en France, on est moins sur la peur de l'autre, donc comme je l'expliquais juste avant, par rapport au fait que eux ils ont eu vraiment peur de ces gens qui habitaient dans les campagnes, qui ont migré dans les villes, et ils les considèrent directement comme des arnaqueurs, des fraudeurs, parce qu'il y a des dangers potentiels qui peuvent disparaître parce que personne ne les connaît, ne connaît leur identité. Et il y a cette méfiance-là parce que beaucoup de Chinois se considèrent comme victimes de fraude, okay. ou ayant déjà été victimes de fraude.
Donc on passe au mot de la fin. Camille, pourquoi est-ce qu'il faudrait être pour le crédit social chinois ?
Donc pour moi... Il ne faut pas négliger la culture et l'histoire du pays quand on parle de ce genre de sujet. Nous avons un avis très tranché sur la question ici en France, à savoir que ça limite excessivement nos libertés et que c'est donc simplement impossible de pouvoir vivre de cette façon. On le voit bien, la liberté fait partie de la devise française. Dès qu'on a l'impression d'être contraint, on râle et ou on manifeste, tout en évoquant la Révolution française. Mais rappelons un peu la situation en Chine. Les citoyens vivent dans une insécurité permanente, où la peur de l'autre domine. Le voisin qui vient tout juste d'emménager est-il une personne tout à fait respectable ou a-t-il l'intention de me voler dans un futur plus ou moins proche avant de disparaître sans laisser de traces? Pour l'État, tout comme l'opinion publique, ce serait plutôt un moyen pour le pays de s'élever et de lutter contre les multiples scandales de fraude et de corruption. De plus, le crédit social sert également à pallier au manque de confiance vis-à-vis du marché chinois en incitant à plus de transparence et en traquant les fraudes comme le trafic de marchandises de contrefaçon. Finalement, ce serait surtout un système incitant les personnes morales et physiques à respecter leurs obligations légales par un mécanisme de récompense et de sanction, et seules les personnes commettant des infractions auraient à s'en inquiéter.
Très convaincant. Et Antoine, pourquoi faudrait-il être contre ?
Moi, je pense qu'il faut complètement être contre, parce que bah, il n'y a aucun point sur lequel je suis d'accord avec toi, Camille. Quand tu parles de la peur de l'autre, pour moi, si t'as peur de l'autre, c'est juste parce que tu le connais pas, va le voir. Il y a peut-être d'autres façons, plutôt que direct penser que c'est quelqu'un de mal, penser tout de suite qu'il va vouloir te voler des choses, essayer de le fliquer, de le tracer en permanence. On parle quand même de cacher le fait de pister quelqu'un. Quand tu parles de caméra cachée, quand on parle de... On attribue la note à quelqu'un. Enfin, quand on est à l'école, on nous attribue une note et on nous dit, oui, mais ne te réfère pas à cette note. C'est pas ce que tu vaux, c'est ce que vaut ton travail. Alors pourquoi, si toute notre vie, on nous dit, on n'est pas une note, alors pourquoi on devrait, au bout d'un moment, devenir une note, être noté par des citoyens, un gouvernement, des gens qui ne connaissent pas forcément, en fait, des gens qui ont des a priori, justement, t'es noté par des a priori... Je donne un petit coup dans le micro. T'es noté par des a priori de gens qui te connaissent pas parce que tu viens d'emménager à côté de chez eux et qu'ils ont peur de toi. Bah, va leur parler, montre-leur que t'es quelqu'un de bien, prenez le café ensemble. Et je pense que la question, elle est pas vraiment dans est-ce que je dois me méfier de l'autre, mais plutôt est-ce que je dois me méfier de l'humain en général. Et moi, je pense que l'humain, bah, c'est quelqu'un de bon.
On va pouvoir conclure l'émission. Donc, merci à tous. Un dernier au revoir à tout le monde. Lisa.
Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'émission.
Angelina.
Merci d'avoir écouté sur
Graphite. Et Antoine.
Merci de votre attention et à bientôt sur Graphite.
À bientôt, au revoir.
Ciao.